Nous recevons ce soir un des rescapés des attentats du 13 novembre, Victor Roire. Bonsoir. Vous publiez « Comment pourrais-je pardonner ?» aux éditions de l'Observatoire. Vous allez nous dire comment vous avez vécu cette première journée de procès. On se demandait si Salah Abdeslam allait parler ou allait rester silencieux. Eh bien, il s'est exprimé. Il a enlevé son masque. Il a d'abord paraphrasé la profession de foi islamique. Il a provoqué les victimes en disant aussi... notamment qu'il était combattant de l'État islamique. Et voici ce qu'il a hurlé cet après-midi. Je vais citer ses propos tels qu'ils ont été entendus par notre journaliste tout à l'heure dans la salle. « Il faut nous traiter comme des êtres humains. On n'est pas des chiens. Ici, c'est très beau. Il y a des écrans plats, de la clim. Mais là-bas, on est maltraités. On est comme des chiens. Je ne me suis jamais plaint parce que je sais qu'après, on sera ressuscité et que vous devrez rendre des comptes. » Comment vous réagissez quand vous entendez cela ?
Alors tout d'abord, la seule chose qui m'a surpris dans tout ça, c'est qu'il ait parlé. Parce qu'au départ, je m'attendais finalement à ce qu'il reste enfermé dans son mutisme, dans lequel il était depuis des années. Après, sur ses propos, malheureusement, je ne suis pas surpris. Je pense qu'on est face à quelqu'un de déterminé, de comment dire, dévoué à sa cause, qui reste, en tout cas pour l'instant, à ce que l'on voit, on est qu'au début procès, mais... dénué de toute empathie vis-à-vis des victimes, d'humanité. Enfin, malheureusement, je suis pas extrêmement surpris pour l'instant. J'aimerais, enfin, ça restera peut-être un vœu pieux, mais que peut-être à force de voir défiler des familles de victimes et des victimes dont la vie a été brisée ou en tout cas meurtrie par ces attentats, qui se mettra peut-être à éprouver un minimum de compassion envers les victimes, mais j'en doute.
Oui, parce que là, en fait, on est en train de rentrer dans le dur, c'est-à-dire d'être confronté à ce qu'on pouvait craindre, c'est-à-dire que ce procès serve de tribune pour quelqu'un qui a décidé de provoquer. Et la question qu'on se pose, c'est à quoi peut servir ce procès ? À la fin de votre livre, vous espérez que ce procès va servir, qu'il va être utile à bien des égards, une prise de conscience, une possibilité justement de nous mettre en face de tout cela. Au vu de ce premier jour, comment vous voyez la suite ? Est-ce que vous croyez vraiment que ce procès va être utile et à quoi ?
Alors malheureusement, ma première impression aujourd'hui, du premier jour, c'est... non, je suis très sceptique. Je suis très sceptique par rapport à ça. Je ne désespère pas. Je pense que voilà, le procès va être très long. On peut s'attendre à des mois douloureux aussi pour les victimes. Ça va être un procès dont l'issue juridique, mais je dirais la suite est incertaine. Non, c'est-à-dire que moi, j'aimerais évidemment qu'on puisse obtenir des informations supplémentaires pour savoir comment ont été préparés ces attentats, obtenir des informations cruciales pour l'avenir qui pourraient peut-être éventuellement nous permettre de mieux nous préparer ou d'anticiper les actes terroristes ou ce genre de choses. Mais mon sentiment profond est que malheureusement, hormis ça et éventuellement trouver une forme de soulagement ou d'apaisement pour les victimes, ce que je souhaiterais évidemment à travers l'addition de justice. Mais tout ça, j'ai du mal à y croire.
Ce que vous racontez, parce qu'il faut bien expliquer, vous racontez dans votre livre, d'abord le Bataclan, ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu et qui est absolument inimaginable. C'est-à-dire que le récit que vous en faites est atroce. Et ce procès doit aussi servir à ça, à raconter réellement, à nous dire, à nous qui n'avons pas vécu ça, qui ne pouvons pas imaginer ce que ça a pu être. Mais votre livre raconte ensuite tout le reste, c'est-à-dire la souffrance derrière, les douleurs, la convalescence, tout ce que vous avez enduré, les espoirs de s'en sortir, les rechutes. Et puis, en même temps... Et c'est là où ce que vous venez de nous dire sur ces procès est important, c'est qu'en même temps, vous racontez la prise de conscience, comment vous avez pensé ce qui s'était passé. Et c'est pour ça que je vous pose la question de à quoi va servir ce procès, parce qu'en fait, j'ai l'impression, en vous lisant, que la question, c'est de savoir si finalement, cette justice civile est vraiment adaptée à ce qui est en fait un crime de guerre. Et qu'un procès risque de ramener à un crime normal, j'allais dire. Est-ce que vous craignez pas ça ? Ou est-ce que vous pensez que, malgré tout, il y a d'autres moyens de faire comprendre le côté incommensurable et historique de cet événement ?
Alors je pense que l'événement déjà est historique évidemment de par son ampleur, mais effectivement je pense que d'un point de vue purement juridique, enfin sur la décision de justice en tant que telle, oui j'ai un peu cette crainte, c'est-à-dire que bon le procès sera hors norme, on juge quelqu'un c'est normal, c'est la justice de la République, mais j'ai peur qu'on n'aille pas plus loin, comment dire, sur l'examen en fait de la société, sur les maux MAUX dont la société peut souffrir, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour aussi des actes terroristes. Enfin, c'est-à-dire qu'on a pu constater que malheureusement la République faisait face à de nombreuses attaques, même déjà, par exemple au niveau de l'éducation, enfin sur pas mal de ces institutions. Et la justice, justement, je l'évoque dans mon livre, c'est pas la justice en tant que telle, évidemment, que je critique, mais certaines décisions qui m'ont paru assez critiquables et surprenantes concernant certains djihadistes, par exemple. Concernant le père Hamel, où on s'aperçoit que finalement l'indigiste avait été libéré, mais Manuel Valls avait d'ailleurs reconnu à l'époque que c'était un échec pour la justice, ou par exemple l'un des terroristes, le terroriste du marché de Strasbourg en 2018, où on s'aperçoit qu'il a été condamné 27 fois, donc 27 condamnations, et que finalement il se retrouve dehors. Enfin, ce que je veux dire, c'est j'interroge en fait quelque part le bon sens de me dire comment se fait-il qu'un individu donc qui visiblement est très dangereux puisqu'il a été condamné à maintes reprises puisse se retrouver en liberté après 27 condamnations.
On a l'impression, en fait, en vous lisant, et parce que vous égrenez comme ça tous ces attentats, qu'on a tendance à oublier. C'est-à-dire que le flux des images, des informations, fait que personne aujourd'hui ne serait capable de citer le nombre d'attentats qu'on a vécu depuis le Bataclan. Et c'est absolument terrifiant. Et ça passe comme des faits divers, comme des problèmes psychiatriques. Et vous rappelez tout ça. Et on voit, en fait, dans votre livre, une sorte de construction d'une conscience, c'est-à-dire cette espèce d'incrédulité devant le fait que vous avez l'impression que rien n'est fait, c'est ça ?
Alors, je ne dis pas que les gouvernements n'ont rien fait, parce qu'effectivement, ils ont essayé de prendre des mesures. Je suis conscient de la situation qui est assez délicate, je veux dire, pour faire des lois, normes, je sais qu'il y a tout un cursus qui est assez compliqué, mais mon interrogation...
Vous citez quand même les lois antiterroristes qui ont été mises en place, vous citez la loi de Gérard Collomb notamment, enfin tout ce qui a été, tout le dispositif qui a été amélioré, ça oui.
Voilà, donc de ce point de vue, ça a été amélioré effectivement. Je pense simplement que ce n'est pas suffisant, enfin ce n'est pas suffisant dans le sens où il s'agit de mesures... dire pragmatique de répression, mais je pense qu'il y a aussi je pense déjà que plusieurs fois malheureusement les pouvoirs publics étaient plus dans la réaction que dans l'action, c'est-à-dire qu'en fait, enfin c'est un point de vue purement personnel, mais de ce que j'ai vécu, à chaque fois que je voyais les attentats se succéder, j'avais je ressentais la même chose, c'est-à-dire voilà, malheureusement vous voyez qu'il y avait un nombre conséquent de victimes, et finalement les questions revenaient. Mais j'avais l'impression qu'entre deux attentats, finalement, c'est pas qu'il y avait une forme d'oubli ou d'impuissance, mais un peu quand même si. C'était.
Oui, c'est ça, vous le dites carrément dans le livre.
Oui.
Non seulement oubli, mais aussi, vous citez par exemple ce qui vous effare, c'est-à-dire en mai 2016, Manuel Valls qui propose un dispositif pour effectuer un travail, pour que les djihadistes effectuent un travail sur leur personnalité. Vous dites, mais enfin, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Vous citez François Hollande, Donald Trump vient d'expliquer qu'il y avait de l'insécurité à Paris, en se moquant de la France, et François Hollande répond, on est un an et demi après le Bataclan, oui enfin je voudrais pas comparer, mais ici il n'y a pas de personnes qui prennent des armes pour tirer dans la foule. C'est-à-dire qu'il semble avoir effacé de sa mémoire le Bataclan. C'est tout ça que vous racontez, c'est-à-dire en fait l'espèce d'absorption comme ça des faits.
Donc là effectivement j'évoque quelques déclarations du président, du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre de l'époque. Ce qui m'avait frappé à ce moment-là, je peux accepter une maladresse, mais là, en l'occurrence, il n'avait pas rebondi ensuite, pour ce qui est du cas de l'ancien président. Bon, moi, évidemment, ça m'avait interpellé, parce que, après ce que j'ai vécu, plein Bataclan, après l'horreur à laquelle j'ai assisté, tous ces morts, c'est ce que je dis. J'utilise cette expression dans mon livre. Nous étions comme des lapins à l'ouverture de la chasse. Enfin, c'était absolument épouvantable. Il faut se rendre compte vraiment de la scène, et qu'un président puisse dire ici en France, on ne tire pas sur la foule. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais que m'est-il arrivé en fait ? Enfin, que nous est-il arrivé ce soir-là ?
Et on a vécu une campagne présidentielle en 2017, et il n'en a pas été question. Vous craignez que ça se reproduise ?
Oui, Oui, je pense que malheureusement, ce n'est pas impossible.
Comment on a fait en 2017 pour qu'il ne se passe rien ? Il y avait quand même eu 250 morts en France, et rien. Ce n'était pas le cœur du débat.
C'est ce qui m'a surpris, surtout que nous n'étions qu'un an et demi après les événements du 13 novembre. Et ben, finalement, voilà, donc il y a eu cette affaire des costumes et cette histoire d'assistante parlementaire concernant François Fillon. Et c'est ce qui m'a choqué, c'est que je pensais que cette campagne servirait d'établir un débat profond sur la France, comment combattre le terrorisme et qu'on puisse utiliser tous les moyens, réfléchir à tous les moyens, c'est pas seulement humain ou matériaux, mais philosophique, politique, culturel, enfin, qu'on puisse faire un débat, un grand débat sur cette question pour trouver les solutions adéquates et le meilleur moyen de lutter efficacement contre le terrorisme, sachant qu'en plus, la violence avait été telle que je pensais qu'il n'était pas question de passer outre ce débat, enfin, en tout cas de faire un débat de fond sur ces questions.
On a l'impression qu'il y a aussi une gêne, même dans le monde médiatique, parce que vous intitulez votre livre « Comment pourrais-je pardonner ?» Et en fait, il y a un livre qui a été beaucoup mis en avant après le Bataclan, c'était celui d'Antoine Léris, « Vous n'aurez pas ma haine », et qui a été montré comme quelque chose d'admirable, c'est vrai, parce que c'était une façon de répondre qu'on se refusait à sombrer. Et on peut d'ailleurs se réjouir que la France ne soit pas tombée dans la haine. Il n'y a pas eu de réaction d'amalgame, de réaction violente, rien. En revanche, on se souvient aussi qu'il y avait le père d'une victime, Patrick Jardin, qui lui était dans la haine et le disait. Et ça a été dénoncé par les médias parce que c'était pas bien, c'était la mauvaise victime en fait. Vous, on a l'impression que c'est presque ça. On pourrait vous accuser d'être la mauvaise victime parce que justement vous dites que vous ne pouvez pas pardonner, même si vous avez une façon de l'expliquer qui est justement une réflexion sur ce que c'est que le pardon. Vous avez l'impression qu'on a en fait envie de dire, bon allez, on va passer à autre chose, c'est très noble, c'est très beau, et comme ça, ça nous évite de regarder.
Oui, notamment, j'évoque le terme de résilience auquel on fait souvent référence, auquel on a souvent fait référence à la suite des actes terroristes. Moi, en soi, je sais que c'est plutôt une qualité au départ, au sens étymologique du terme. Simplement, je trouve que cette expression a servi quelque part à masquer un petit peu, justement, certains manques, certainement soit de volonté politique, soit une forme d'impuissance, et que finalement c'était une expression assez commode pour éviter d'aborder certains sujets de fond ou d'explorer la question dans toutes ses largeurs et dans son entièreté.
Mais quand vous dites comment pourrais-je pardonner, c'est la question d'un chrétien.
Oui, alors
qu'est-ce qui fait que vous la posez ainsi?
Alors justement, en fait, c'est une sorte de dilemme en fait entre l'aspect religieux et l'aspect purement factuel. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, je suis très attaché au pardon. J'aimerais foncièrement pardonner, mais en l'occurrence, vu la gravité des faits, donc là, je me base sur l'aspect purement factuel des choses. On a eu affaire à des crimes absolument abominables qui vraiment, les innocents ont été massacrés.
Et ils ne demandent pas pardon.
Et ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, pour moi, le pardon, c'est la rencontre de deux volontés, entre le bourreau et la victime. Il faut absolument qu'il y ait l'accord des deux pour que le pardon puisse être accordé. Et en l'occurrence, à partir du moment où le bourreau ne souhaite pas demander pardon, le pardon est, selon moi, impossible.
Vous disiez tout à l'heure que c'était aussi philosophique. Vous disiez qu'il y a plusieurs problématiques qui se posent. Il y a aussi un débat philosophique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lequel ? C'est-à-dire que vous mettez à la place de Salah Abdeslam et vous vous dites comment ce jeune homme a pu à un moment avoir eu pour projet de vie de nous tuer, de faire de nous des victimes.
Alors oui, on peut voir le débat sous cet aspect. Je pensais plus à ce moment-là, quand je parle de débat philosophique, plus sur la République en elle-même, c'est-à-dire sur les fondements de la République. Comment aujourd'hui peut-on réagir par rapport à ça? Comment la République peut lutter efficacement? Moi, je pense... Enfin, c'est mon intime conviction, que la République a tous les moyens, quels qu'ils soient, pour lutter face à cette menace. Simplement, je pense qu'il y a une sorte, quelque part, de renoncement, parfois, au niveau de ses valeurs. Je pense à l'éducation, par exemple, à travers l'école. On a vu qu'il y a eu pas mal de problèmes par rapport à ça. Et je pense que elle a un socle très solide, mais qui, malheureusement, s'effrite peut-être par rapport à une sorte de culpabilité idéologique que certains peuvent... évoquée par moment, et je trouve ça dommage parce que je pense vraiment qu'elle a les atouts pour lutter contre ça.
Vous avez vécu un cauchemar, vous avez failli perdre une jambe, vous avez souffert dans votre chair, dans votre esprit. Aujourd'hui, vous entendez Salah Abdeslam expliquer on est traité comme des chiens sous prétexte que c'est pas assez confortable dans sa prison. Vous craignez ce cynisme, vous craignez que ce procès fasse qu'il soit considéré comme un héros par des jeunes qui adhéreraient à son idéologie?
Alors déjà, il me semble, concernant ces conditions de détention, qu'a priori il n'y a pas eu de fait particulièrement grave. Enfin, je pense qu'il a été il a eu les mêmes conditions que n'importe quel détenu finalement, selon les lois en vigueur dans les pays dans lesquels il a été détenu. Donc finalement, on peut se plaindre. Je pense que ça reste de la provocation, évidemment, vis-à-vis de la France. Ensuite, sur l'aspect concernant l'idéologie islamiste, oui, ça m'inquiète parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes perdent leur père peuvent malheureusement considérer que c'est un martyr ou quelqu'un qui peut servir de caisse de résonance, je dirais, et malheureusement servir de mauvais exemple finalement pour certains jeunes, oui, qui seraient tentés, enfin, ou qui sont en perte de repère, d'être tentés par cette idéologie et donc acquérir une forme de radicalisation et qui peut malheureusement pousser au pire.
Merci Victor Roir d'avoir été avec nous ce soir dans Polo News.
Merci beaucoup.
On passe à Face à Polonie.